France Inter, le 6-9 de l'été, Laetitia Gaillet.
Alain Baraton, pour votre balade du jour, on réduit notre bilan carbone en allant au Japon, en France.
Eh oui, et c'est possible et c'est exact, car il existe en France de vraiment beaux et de très grands jardins comme celui de Meulévrier près de Cholet, de jardin japonais bien entendu. Ce jardin classé remarquable, comme il se doit, eh bien a été conçu dans l'esprit des grands maîtres jardiniers qui excellaient dans leur pays du début du XVIIe siècle à la fin du XIXe. Deux siècles de suite, on s'est acharné à faire de beaux jardins japonais.
Mais il existe celui-là depuis quand ?
Alors, un peu d'histoire. À l'origine, il y a un château construit vers 1680 pour celle, c'est une dame, qui va épouser Édouard François Colbert. Je sais que vous savez que c'était le frère du ministre de Louis XIV et que lui-même était lieutenant général des armées du roi. Ça ne plaisante pas. Pendant les guerres de Vendée, le château est détruit puis reconstruit autour des années 1820. Alors, c'est un jardin à l'époque que l'on va reconstruire aussi dans le goût de l'époque et qui est aménagé et qui devient romantique. Le domaine est vendu en 1893, je suis au courant de tout, aux bergères. Alors non pas les jeunes filles qui gardent les moutons, mais à la famille d'Eugène Bergère, c'est moins romantique, un industriel.
Et Alexandre Marcel, dont vous allez nous parler, le gendre d'une des filles d'Eugène, c'est bien ça ?
Eh bien c'est tout à fait ça, et il s'avère que notre homme est un architecte et qu'il excelle dans l'orientalisme. Autant vous dire que le jardin japonais, c'est son truc. De 1899 à 1913, il plante des centaines d'arbustes et arbres autour d'un lac artificiel. Alexandre Marcel, pour bien comprendre, a été le concepteur du pavillon cambodgien pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Il ramène donc ainsi dans la propriété moulage et reproduction.
Et là, patatras, le journal souffre d'un manque d'entretien.
C'est souvent le cas malheureusement. Et à la mort de la propriétaire en 1945, le parc est totalement abandonné. 20 ans plus tard, comme c'est souvent le cas, le domaine est morcelé. C'est en 1980 que le lieu retrouve un semblant de vie quand la commune de Meulévrier l'achète puis le restaure. Meulévrier, c'est une bonne information, aujourd'hui a retrouvé ses ponts et ses pagodes, son salon de thé et ses allées où il fait bon s'égarer. Cerise sur le gâteau, il est possible de s'y promener en nocturne en août, le mercredi soir, et ça tombe bien, le vendredi 5 et le 12 août.
Et vous avez, c'est marqué cerise dans ma relance, cerise avec un S.
Eh oui, ah, je vois que vous avez bien lu le petit texte. Oui, car demain dimanche 4 août, c'est la journée peintre au jardin. Une occasion de rencontrer des artistes et de contempler leur travail, exposé face au château vers 1730. Meulévrier, c'est aussi en dehors du jardin japonais. Et oui, un potager juste à côté, celui du château Colbert. Il est né il y a quelques années, il est lui aussi classé remarquable. Alors pour ceux qui l'ignorent, et je pense que vous l'ignorez peut-être, Meulévrier est situé, je l'ai déjà dit, près de Cholet dans le département du Maine-et-Loire.
Du Maine-et-Loire, voilà, vous avez tout
dit. Un très joli département.
Très joli, effectivement.
J'en profite également pour préciser que l'accès au jardin est payant.
Voilà, parce que vous avez toujours peur que je dise qu'on peut venir de la part d'un marathon et que
tant
c'est gratuit.
Coup. Ça ne mange pas de pain, comme on dit.
On passe aux questions des auditeurs, Alain. Il y a Georges qui pose cette question. Que nomme-t-on taille nuage? Alors moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Alors ça, on est typiquement dans l'esprit du jardin japonais. La taille en nuage consiste à couper les branches d'un conifère pour qu'il y ait comme un peu comme les caniches. Vous voyez les caniches où on fait des compositions avec leurs poils.
Il faut que ça ressemble à quelque chose.
Ouais, ils ont des bouts, des un peu comme le chien de Jeff Koons, vous voyez. Donc il y a des excroissances velues qui donnent à l'animal un semblant de forme, comment dire, à peu près drôle. La taille en nuage, c'est beaucoup plus scientifique. C'est en fait déplumer un végétal pour que, une fois qu'il est taillé, il y ait un amas de branches et de feuilles qui donne l'impression que c'est un ciel avec des nuages. C'est une technique qui a été mise en place par Éric Borja, le grand Éric Borja que je salue d'ailleurs, et qui permet effectivement, eh bien, de donner un aspect japonisant à certains végétaux. Il ne faut pas confondre la taille en nuage avec la taille de transparence qui consiste à éliminer un certain nombre de branches et de feuilles pour que l'on puisse voir à travers le végétal. Là, vous taillez en fait en bouche, un peu en boule, un peu façon caniche.
Mais alors là, on va dire que la taille, c'est pour faire beau, mais est-ce que c'est bon pour les végétaux?
Aucune taille n'est bonne pour le végétal. Lorsque vous taillez un végétal, vous créez chez la plante un stress. Vous réduisez en quelque sorte ses poumons et ses panneaux solaires. Et la plante, en réaction pour survivre, va produire davantage de branches et de feuilles. Donc oui, ça donne du regain d'activité à votre végétal, mais par contre, c'était pas très bon pour la plante. Je le dis simplement car une plante taillée, généralement, a une espérance de vie un peu plus courte.
Alain Baraton, Elisabeth a cette question. Les plantes sur mon balcon ont les feuilles découpées façon dentelle. De quoi s'agit-il ?
Tous les ans, on en parle, c'est assez amusant. Il y a une petite bestiole que j'adore qui s'appelle l'oturinque. Êtes-vous capable maintenant, sans réfléchir, de m'orthographier le nom ?
Non, absolument.
Vous avez raison,
pas.
Parce qu'il y a quelques H, quelques Y, quelque part.
Il y a un Y, là.
L'oturinque, bestiole que j'adore, parce que déjà, elle boulotte la nuit. Elle est nocturne. Alors, c'est un bel insecte qui est assez grand et très visible. Pendant que vous dormez, vous, du repos du juste, eh bien, la bestiole, elle se délecte. Et le lendemain, quand vous venez, elle dort et vous ne la voyez pas.
Alors, elle a fait des trous dans le...
Ah bah oui, elle a carrément mangé en périphérie. On a l'impression qu'elle a passé... Tu sais, autrefois, quand on jouait au tiercé, on mettait un coup dans le
ouais.
ticket.
Et
c'est comme j'ai l'impression que quelqu'un du PMU est passé et s'est amusé sur votre plante toute la nuit. Ce sont les traces de l'oturinque. Alors comment faire pour se débarrasser astucieusement de la bestiole sans lui faire de mal ? Vous y allez la nuit tout simplement avec une lampe électrique, pas plus compliqué.
Ouais.
Vous la voyez, elle est devant vous. Elle boulotte devant vous, ça la dérange pas du tout. Vous prenez une petite boîte, vous mettez avec vos doigts la bestiole dans la boîte parce qu'elle ne mord pas, elle ne pique pas. Et discrètement, vous allez chez le voisin et paf ! Voilà, vous débarrassez.
J'arrête
ainsi.
Pas de faire ce que vous me dites et à chaque fois, mes voisins me les renvoient. Donc.
Vous avez surtout peur qu'un jour je donne votre adresse et que vous...
Il y a cette question de Fulvia Alain Baraton. Connaissez-vous une astuce pour produire dans le jardin des girolles et des cèpes ? Mais on ne produit pas des girolles et des cèpes.
Bah non, si je connaissais l'astuce, il y a longtemps que je l'aurais fait commerce.
Ça coûte en plus très cher.
Ah bah oui, les champignons ont des modes de reproduction extrêmement complexes et on a beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui, excepté peut-être pour ce que l'on appelle les champignons de Paris, à les produire durablement. Je sais qu'il y a maintenant des cèpes un peu bizarres qui viennent de certains pays. Je ne sais pas s'ils sont produits en batterie ou pas. Mais toujours est-il que produire chez soi des cèpes de Bordeaux, des morilles ou des girolles, si je le savais, je me garderais peut-être bien de donner le truc et j'en ferais commerce.
Nicolas, cette question, et je pense que ça va intéresser aussi notre invité tout à l'heure, Michel Rousseau. Je compte créer un potager à l'automne. Faut-il déjà retourner la terre? En même temps, j'ai envie de dire, elle est tellement sèche, comment on fait pour la retourner?
Alors déjà, effectivement, on évite de trop toucher au jardin avec la sécheresse. Vous savez, la nature souffre, les plantes souffrent, les insectes souffrent, les mammifères souffrent. Donc non, on attendra le dernier moment et que la nature ait repris un petit peu sa façon d'être avant d'intervenir dans le jardin.
Alain Baraton, un livre avant de se quitter.
Oh, écoutez, j'ai trouvé très intelligent les 11 meilleurs champignons sans se tromper de Gerhard Schuster et de Christine Schneider chez Ulmer. Enfin, un bouquin qui vous permet d'affirmer que le champignon que vous avez devant vous, c'est bien une girole.
Ah, d'accord, ok. Et puis là, qu'on les plante pas et qu'on les trouve dans la forêt.
On est bien d'accord. Donc, les 11 meilleurs champignons sans se tromper.
Merci beaucoup, Alain Baraton, et on se retrouve demain.
Avec joie.